Ensemble sur
Calade.
Ensemble sur Calade, les meilleurs moments.
Bien, on retrouve Bertrand Lamure de la librairie Des Marais qui nous donne son coup de cœur littéraire comme chaque semaine. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Très très bien, c'est lundi, il y a du soleil et je suis dans ma librairie et ma foi, voilà, je n'ai pas de quoi se plaindre.
Est-ce que tu as réussi à lâcher ton polar qui avait l'air si addictif ?
Tout à fait, John Grisham, La Sentence et ben ma foi, je ne pensais pas du tout que ça se terminerait comme ça. Comme quoi,
très
ils
bien.
Sont quand même très bons, ces romanciers, alors du polar, mais en général, mais là, ouais, bravo, bravo.
Ils sont forts.
Et le drame, c'est que par contre, quand on vient de lire un polar qui est très très bon, et qu'on attaque un deuxième, ce qui a été mon cas dans la foulée, bah, je l'ai trouvé complètement nul.
Ah, il a la pression, le livre suivant.
Ouais. C'est toujours un vrai drame, ça. Le livre suivant, il est un petit peu mort d'avance. Quoi. Mais bon.
Et puis finir un livre, moi, je trouve que c'est toujours un peu une petite déchirure. J'ai du mal à quitter les personnages.
Ah oui, quand on a aimé un livre, etc. Et quand on voit d'ailleurs qu'il nous reste 20 pages, on se dit, ça y est, c'est... Et effectivement, après, et je trouve que c'est parfois bien de prendre du temps, de même pas lire des fois pendant quelques jours pour rester encore un petit peu avec ces personnages qui sont un peu devenus des membres de la famille. Et parce que c'est vrai qu'on a besoin de faire ce petit deuil quelque part de ces personnages. Donc voilà.
Alors, on papote autour du polar et des romans.
Mais en fait, il n'est pas question de polar aujourd'hui. Alors, dans la librairie, il y a un rayon, et je crois que je n'en ai encore jamais parlé, donc honte à moi, parce que c'est quand même un petit peu mon domaine d'origine, qui est le petit rayon histoire. Et ben comme dans toute librairie, il y a quand même un rayon histoire, hein, histoire récente, histoire ancienne, avec quand même des publications qui sont fréquentes, qui sont régulières. Et alors souvent, c'est des publications qui peuvent être en lien avec des commémorations. Donc par exemple 2020, alors même si cette fameuse année 2020 n'a pas forcément bien commencé, c'est l'année un peu de Gaulle. Alors je ne vais pas trop épiloguer parce que de Gaulle, on l'a un peu à toutes les sauces, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses, je pense surtout à la rentrée, puisque on va fêter les 130 ans de sa mort, les 130 ans de sa naissance, pardon, les 50 ans de sa mort, l'appel du 18 juin, et ben voilà, ça va nous faire 80 ans. Donc voilà, je pense que là, il y a du lourd qui s'annonce.
Ça arrive sur De Gaulle. Il y a eu un film, je crois, cette année.
Je crois qu'il y a eu un film, il me semble, oui, avec
Lambert Wilson.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. J'avais un peu un doute sur cet acteur en tant que De Gaulle, mais il paraît que c'était pas mal du tout. Ouais. Alors, moi, je voulais évoquer juste deux ou trois historiens et deux ou trois livres qui m'ont plutôt marqué. Alors, je commence, si on remonte de très loin à aujourd'hui, avec d'abord un livre de Howard Carter. Alors Howard Carter est le fameux égyptologue qui en 1922 a découvert la tombe de Toutankhamon. Et il avait écrit un peu ses mémoires après cette découverte complètement extraordinaire. Et il raconte jour après jour, d'abord tous les efforts, hein, parce qu'il a fallu quand même des années et des années pour en arriver là, mais après effectivement de la découverte de la tombe de Toutankhamon, et ben comment sur deux ou trois ans ils vont rentrer progressivement dans la tombe avant d'atteindre effectivement la tombe qui est extraordinaire. Il y avait une expo l'an dernier qui a été montrée en France à Paris et qui était somptueuse. Donc c'est un petit bouquin chez Libretto qui s'appelle « La fabuleuse découverte de la tombe de Toutankhamon ». Et c'est un vrai petit bijou, on est carrément dans un roman. C'est pas policier, mais je pense qu'on pourrait faire une belle enquête policière dessus.
Retrouver la dépouille de Toutankhamon.
Tout à fait. Alors, on remonte encore un peu plus dans le temps avec une historienne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Arlette Farge. Et Arlette Farge, pardon, a beaucoup écrit sur... tous ceux qui quelque part ne font pas l'histoire, parce que nous on connaît les grands, les rois, etc. Mais il y a quand même des millions et des milliards de personnes dont on ne fera jamais l'histoire. Et Arlette Farge a écrit dans son dernier livre qui s'appelle Vie oubliée au cœur du XVIIIe siècle. Donc toute une série de portraits, de vies, donc de petits commerçants, de petits artisans, etc., que bien évidemment on ne connaît pas, on ne connaîtra jamais. Et voilà, c'est aussi une belle façon, pardon, d'évoquer l'histoire par ce qu'on appelle, entre guillemets, les petites gens, les petits métiers. Voilà. Donc c'est à la fois instructif sur une époque et c'est très riche pour le coup. Et c'est à mettre en lien avec un autre historien de grand talent qui s'appelle Alain Corbin et qui lui aussi a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la petite histoire, la micro-histoire, justement sur ces populations oubliées, ces habitudes, ces attitudes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt comme ça, mais au regard de l'histoire qui peuvent être très riches. Et je continue du coup dans ma lancée sur cette thématique avec un autre historien qui s'appelle Gérard Noiriel. Alors Gérard Noiriel a passé toute sa carrière à travailler principalement autour du monde ouvrier et il a écrit un livre qui est un peu quelque part la conclusion d'une vie de recherche qui s'appelle « Une histoire populaire de la France ». Qui va globalement du Moyen-Âge à nos jours, et qui justement évoque toute cette population ouvrière, toute cette population paysanne, tous ceux qui, ce qu'on peut appeler un peu la populace, qui évidemment en histoire, parfois ont été vecteurs de profondes transformations au moment des révolutions, au moment des grandes révoltes, etc. Et là, il fait un travail très intéressant sur justement ces... cette population, et d'ailleurs la couverture est assez extraordinaire, puisque on voit des ouvriers qui sont en train de construire la tour Eiffel. Et c'est vrai qu'on dit que la tour Eiffel sans ces ouvriers, évidemment, on n'en serait pas là.
Ce monument d'histoire, il a été fait par plein de petites mains, comme on dit.
Voilà, on a un peu tendance à oublier comment en fait les grands monuments qu'on a aujourd'hui, on le doit à des milliers de petites mains. Voilà, en règle générale, on retient l'inventeur, on retient parfois l'architecte. On retient quand même très peu les milliers de petites mains, surtout que les conditions de travail n'étaient quand même pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Voilà. Et puis, si j'ai encore 2-3 minutes...
Peut-être un dernier livre.
Alors, un livre qui est assez attachant, qui est de Marc Ferraud. Alors, Marc Ferraud est un historien qui a déjà fait beaucoup, beaucoup de livres et qui a connu effectivement le succès avec ses nombreux livres et qui a fait un petit bijou qui s'appelle « L'entrée dans la vie ». Alors, l'entrée dans la vie, des artistes, des politiques, des écrivains. Et c'est souvent intéressant de voir que l'enfance de certains hommes ou femmes célèbres après indique beaucoup les attitudes, les façons de faire dans leur carrière. Moi, j'ai souvent en tête l'image de Staline. Staline, dont on sait ce pouvoir dictatorial qu'il a eu, voire sanguinaire à certains moments. Et en fait, c'est un gamin qui est né dans une pauvreté extrême, avec un père d'une extrême violence. Et quand on lit sa biographie quand il est gamin, on s'imagine qu'il y a quand même beaucoup de failles et que malheureusement les Russes ont bien connu le problème. Voilà, et alors on retrouve Chaplin, on retrouve Gandhi, Freud, etc. Et c'est un petit livre très agréable à lire. Et puis également en histoire, il y a beaucoup de biographies. Donc là, j'ai un peu entrouvert la porte avec l'entrée dans la vie. Mais c'est vrai qu'il y a de très très bonnes biographies en histoire. Et de temps en temps, je trouve que c'est intéressant de se plonger dans une biographie, surtout quand elle est bien faite, quand ce n'est pas justement une hagiographie, où là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Alors, hagiographie, peut-être, mais je ne connais pas forcément
Alors, hagiographie, en fait, c'est quelqu'un qui va faire une biographie, mais il adore tellement le personnage qu'il va décrire que, en fait, ce personnage n'a fait que des choses extraordinaires. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que automatiquement, comme tout personnage historique, il y a des failles, il y a des erreurs.
C'est ça qui est intéressant.
Voilà. Donc, une vraie biographie qui essaie de montrer les parts d'ombre, mais également les parts de lumière d'un personnage. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Alors, sans forcément partir dans des personnages historiques, il y en a une dernièrement qui m'a beaucoup marqué, c'est celle qu'a fait Robert Badinter sur sa grand-mère, Idis. Ça se lit presque comme un roman, parce que donc Idis, sa grand-mère, pas personnage historique, hein, elle, quelque part, elle est mise en lumière que parce que son petit-fils est un personnage important aujourd'hui et sera un personnage historique. Idis, c'est une femme qui est née dans ce qu'on appelle au 19e siècle le Yiddishland, c'est-à-dire toute cette Europe de l'Est où il y avait de grandes communautés juives. Elle est née dans une profonde pauvreté, en étant très fortement maltraitée, parce que on est encore à l'époque des pogroms, c'est-à-dire des grandes des grands fléaux contre les juifs qui étaient faits en particulier par l'Empire russe. Et elle va réussir à s'en sortir, elle va réussir à partir, elle va réussir à s'exiler, elle va réussir à arriver à Paris, où là, elle va connaître une autre vie. Progressivement, il va y avoir une ascension sociale. Et elle va décéder en 1942, en plein, justement, moment où les Juifs sont de nouveau pourchassés. Donc c'est vrai que c'est un destin assez formidable. C'est un roman, si je trouve que ça se lit comme un roman. Alors, il y a peut-être un soupçon d'hagiographie dans les propos de Robert Badinter, parce que c'était sa grand-mère, mais je trouve que ça se lit vraiment très très bien. Il y a de très belles choses à trouver dedans. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que le rayon histoire, il y a toujours de vraies petites pépites, hein, qu'on remonte au premier temps de notre histoire, ou qu'on soit dans l'actualité la plus récente, hein, puisque l'histoire, quelque part, n'a que quelques années. Et voilà, donc je trouve que de temps en temps, quand on aime l'histoire, c'est chouette de se replonger dedans, surtout qu'on parlait en début de chronique de du polar, il y a de plus en plus de polars historiques. Et là aussi, c'est intéressant parce que en dehors d'une enquête policière, on apprend toujours quelque chose sur une période donnée. Et voilà, il y a de belles choses, j'en avais déjà un peu parlé, mais il y a de belles choses qui se font là-dessus.
Et ben, on ira découvrir le rayon histoire de la librairie des Marais. Merci beaucoup Bertrand pour ces
Avec
conseils lecture.
Plaisir.
Et moi, et ben, j'ai été inspiré par cette histoire là sur l'entrée dans la vie de Marc Ferro. Je vous propose d'écouter tout de suite un titre de Philippe Catherine qui nous parle de l'enfance des dictateurs. Ça s'appelle tout simplement Les Dictateurs. À bientôt Bertrand.
À bientôt. Bonne journée. Les dictateurs.
Vous écoutez le meilleur de
Ensemble sur Calade.